Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis sur une même enseigne.
Réunis sur une même enseigne.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
C'est tout simplement notre métier.
Bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi et mardi dans Service Public. Un plaisir de travailler avec notre maestro, le réalisateur de l'émission, Hakim Belmoussa. Il est avec nous, il est là, Sadiq, la bonne humeur, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Nesrine est à la régie et voilà notre ami qui est au streaming, Najib. Voilà les amis. Cette émission va passer tout à l'heure sur les réseaux. C'est un plaisir de la revoir et de la réécouter. Et aujourd'hui, nous allons quand même évoquer un sujet hyper intéressant. Le cœur, cet organe extraordinaire. Le cœur dans toute sa splendeur avec nos invités. Notre cardiologue fétiche, notre ami le docteur Nawal Smaili. Et celui qui appartient justement à cette boîte, il a toujours été là pour nous accompagner. Le docteur Jamel Benaleg sera parmi nous aussi juste après la chanson pour pouvoir justement débattre et en parler. C'est le cœur vous en dit au 021 48 15 15. À tout de suite.
Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Effectivement, c'est notre métier aujourd'hui de vous informer autour des sujets qui nous concernent, des sujets auxquels on n'y pense pas forcément. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre justement la lumière sur cet organe exceptionnel, extraordinaire. Il se trouve au cœur et c'est justement le cœur dans toute sa splendeur aujourd'hui dans notre émission. Nawel Smaili, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de t'avoir avec nous.
Partager, toujours partager avec toi.
Ça va, Nawel?
Ça va.
Je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes cardiologue.
Oui.
Très particulière.
Oui.
Avec le sourire, ça fait du bien. On en a besoin.
Cardiologue.
Et vous avez d'autres spécialités.
Ouais. Et actuellement, je fais de l'imagerie cardiaque. Et j'existe sur les réseaux sociaux.
Adjib Menindek. J'aime bien Adjib Menindek. C'est génial. Non, mais c'est bien. Vous avez trouvé le moyen pour atteindre tout le monde. Ça, c'est très, très important. Simplifier, justement, le message.
Oui, effectivement.
C'est très important.
Sortir de sa tour d'ivoire de cardiologue.
Ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour contrer, justement, ceux qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il est avec nous. C'est l'enfant de la radio.
Oui.
Il a toujours été avec nous, il nous a accompagnés plusieurs fois pendant des années. Il est là, il est là avec nous, il continue. Docteur Ben Allak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin du travail.
Oui.
Vous allez comprendre pourquoi il est avec nous aujourd'hui.
Je suis très heureux de retrouver le décor que il y a longtemps.
Mais non, on veut continuer à venir de toutes les façons.
Oui, bon, mais...
Alors les amis, aujourd'hui on va parler du cœur. Le cœur dans toute sa splendeur, c'est le cœur. Vous en êtes, vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15. Profitez, il y a des spécialistes avec nous. Justement, Nawel Smaili, le cœur, un organe exceptionnel.
Essentiel.
Mm-hmm.
Sinon,
et essentiel.
Essentiel. Sinon, après, bon, il y a le cerveau avant, mm-hmm. mais sinon ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui vous intéresse de savoir sur ce cœur? Dis-moi.
Ce cœur, comment il fonctionne?
Comment il fonctionne? Mmh. Il a des artères, trois artères essentielles. Donc, il y a la coronaire droite, celle qui est à droite, c'est le vaisseau qui irrigue la partie droite du cœur. Et il y a deux artères coronaires pour la partie gauche du cœur. Tout le monde est obsédé que par les artères, les artères. Mmh. Et il a des valves, il a des cavités, il a de l'électricité. C'est un petit moteur. C'est un petit moteur, c'est une petite pompe comme ça, mais qui travaille sans fatigue.
Sans arrêt.
Sans arrêt.
Et c'est pour sans ça, interruption.
Sans interruption. Mm-hmm. C'est pour ça, moins il bat, mieux c'est. On dure plus longtemps parce qu'il est au repos. Donc les gens qui ont des palpitations, parce que hier je leur ai demandé de me poser quelques questions, ils sont tous inquiets sur les palpitations. Beaucoup de questions sur les palpitations. Et je vois qu'apparemment, les Algériens ont le cœur qui palpite en début d'année.
Ça bat. Très fort même. C'est bien, à la bonne heure. Mais est-ce que c'est bien, justement, d'avoir ces palpitations?
Alors, bizarrement, c'est très inquiétant.
Mm-hmm.
Ça devrait l'être pour une certaine...
Et pourtant, c'est sa fonction. Il doit battre.
Il doit battre. Mm-hmm. Après, effectivement, en consultation, on voit des gens qui sont hyper anxieux. Le fait déjà de ressentir le cœur battre, ça les inquiète.
Il y a aussi le syndrome de la blouse blanche.
Oui, il y a ça.
Déjà, on a peur quand on arrive chez un médecin. Imaginez un petit peu, on va voir le cardiologue.
Ouais. Après, les battements, là, comme ils disent, ça fait boum et ça s'arrête.
Mm-hmm.
Ça peut être complètement banal. Il faut consulter une première fois pour savoir qu'il n'y a pas de grosses problématiques au niveau cardiaque, c'est-à-dire que le cœur va bien, que ce sont juste ce qu'on appelle, nous, c'est des extrasystoles.
Mm-hmm.
En fait, c'est un battement en plus de ce qui est la norme, qui peut être soit émotionnel, dû à énormément de stress, où il y a des gens qui réagissent très mal au café et au thé, donc aux excitants, même si des dernières études disent que même quand on a des palpitations, prendre deux cafés, c'est excellent pour le cœur.
Jusqu'à trois cafés le matin, il paraît que c'est excellent.
C'est excellent pour le cœur et tout. Donc voilà, pour voir effectivement, les palpitations commencent à être peut-être un peu... On les prend un peu plus au sérieux si on a des facteurs de risque, de l'hypertension, du diabète. On a peur de cette arythmie complète par fibrillation auriculaire qui donne des AVC. Donc ça, c'est qu'on est axé, nous cardiologues, sur comment détecter cette arythmie qui donne des AVC. Donc c'est pour ça qu'on leur dit s'ils sentent des battements. Il faut apprendre à prendre son pouls. Comme ça, avec ces deux-là, et pas avec celui-là, parce que celui-là...
Donc pas le pouce, avec l'index et le majeur.
Parce qu'il a son propre pouls, et il risque, comme on dit... Et là, ils verront. C'est régulier, on est plus tranquille. C'est irrégulier, on est alarmé. Si ça fait boum, tac, khalota. Voilà, donc une sorte de rythme pas du tout régulier.
Là, il va falloir commencer à
s'inquiéter. Il faut aller quand même consulter. Parce qu'il faut connaître tous ces symptômes, il faut connaître les symptômes pour aller consulter, donc il faut pas rester comme ça. Donc première règle d'or en 2026 pour ne pas tomber malade, c'est connaître ce qui est dangereux. On doit s'informer et vous êtes très bien placé pour passer l'information.
Ben très bien, ben voilà. Justement, on est un service public. On est obligé justement de traiter ce genre de sujet pour voir un petit peu où en est la situation. Docteur Benaleg, on consulte pas forcément pour son cœur.
Absolument.
Généralement, quand on va chez le cardiologue, c'est limite.
C'est vrai que, bon, un des signes de la qui fait un petit peu peur pour la personne, c'est ces battements-là, ces extrasystoles, comme l'a dit notre confrère. Mais pourquoi ? Parce que c'est le premier signe qu'on retrouve et qui nous paraît un petit peu bizarre. Je suis bien, et puis à un certain moment, je commence à ressentir des battements, alors ça m'inquiète. Bon, si c'est juste pour un trac, par exemple, ou alors une période qui est juste passagère, c'est pas grave.
Face à un événement, face à un stress.
Exactement. Mais quand ça dure, ça c'est autre chose. Là, il faut aller consulter, il faut aller voir le cardiologue, au moins voir d'abord le généraliste, parce qu'on n'est pas obligé d'aller directement vers le cardiologue. On peut voir d'abord notre généraliste qu'on connaît, à qui on fait confiance, parce qu'il y a aussi cette histoire de relation malade-médecin.
Exactement, ça c'est très très important.
Très important.
D'où justement la présence de notre ami Jamal Benaleg. Vous êtes médecin du travail, donc vous connaissez un petit peu vos sujets, vous allez pouvoir les orienter. On a tendance à aller voir les spécialistes directement sans pour autant consulter un médecin qui a justement cette possibilité d'orienter.
Absolument. Donc déjà, au niveau du généraliste, ça peut déjà se régler, entre guillemets. Bon, on vous donne un traitement, on vous donne des conseils. Le plus souvent, ça rentre dans l'ordre. Bon, maintenant, si ce généraliste voit que les choses s'amplifient ou ne tournent pas rond, là, il vous envoie chez le cardiologue. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que quand vous partez chez le cardiologue, d'abord, c'est réellement une pathologie cardiovasculaire ou cardiaque. Donc, vous ne lui faites pas perdre de temps à ce cardiologue, parce que, bon, il reçoit souvent ce qu'on appelle surtout dans les problèmes d'hypertension. Il y a je rencontre très souvent dans mon travail ce qu'on appelle les hypertensions émotionnelles. Le docteur a dû certainement connaître ce genre de pathologie, ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. La personne est très bien, n'a pas vraiment une hypertension pathologique, et il vous dit, dès que je rentre chez le médecin, c'est comme ça, j'ai mon cœur bat la chamade et je me sens pas bien, et automatiquement il a parfois, je retrouve des vins. Et quand il apprend chez lui, en général, bon, la majorité des gens ont déjà un appareil...
12-13.
Ils l'apprennent chez eux. Elle est à 12, on fait une courbe.
12-13, 12-8, oui.
Voilà. Mais dès qu'il est en contact du médecin, quel que soit le médecin, là, parce que bon, peut-être...
C'est cette peur, justement, qui nous empêche à aller consulter.
C'est ça, absolument. Et c'est cette peur-là que le généraliste, et là... si vous voulez, on va en parler tout à l'heure. Le médecin de famille,
c'est très important. Parce que le médecin, j'ai l'impression qu'ils ont disparu un peu.
Ça a disparu. Au lendemain de l'indépendance, ça a existé. Je me rappelle, il y avait docteur Jabour, c'était notre médecin c'était le tonton. Quand il venait à la maison,
c'était
moi,
un membre de la famille.
C'était quelqu'un qu'on connaissait. Il connaissait toute la famille. le papa, la maman, les enfants, les petits-enfants. Et ils étaient vraiment très, très... pour eux, ce n'était pas le médecin, c'était quelqu'un de la famille qui venait.
Il y a cette confiance qui va s'installer entre le médecin et le patient. Ben, voilà. Ça, c'est très important.
Ça. Je retrouve ça dans mon travail, parce que bon, je prends en charge des entreprises. Et ces entreprises, bon, il y a une où j'ai vraiment... je suis resté longtemps, c'est bon, une entreprise où je suis resté 21 ans, donc je connaissais pratiquement
tout le monde.
Tous les travailleurs.
Vous avez dossier tout le monde.
Dès qu'il rentrait, je connaissais bon, sa famille. C'est... Donc pour lui, d'abord, je suis le médecin bon, du travail, je suis le médecin de famille, entre guillemets.
Et de famille aussi.
Et aussi le confident. Bah, oui. Parce qu'il me raconte des histoires.
Enfin, c'est vrai
il me raconte
qu'on se confie
généralement. Soit ses problèmes professionnels, son problème social.
Et à la coiffeuse.
Et voilà.
Tout à fait.
Et donc, ça, c'est cette relation qui est très importante. Avant d'envoyer chez le spécialiste. Parce que le spécialiste, lui, quand on lui envoie, normalement, c'est quelqu'un qui est déjà cardiopathe, qui a un problème de cardiologie. Et donc. Le médecin généraliste, entre guillemets, mâche le travail du cardiologue. C'est-à-dire quand il arrive chez le cardiologue, il sait ce qu'il a et il entame directement le traitement ou l'intervention qu'il doit faire.
Et bien justement, docteur Smaïli, est-ce qu'on vient vous voir juste pour voir où en est la situation?
Alors, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est pour ça que j'en parle depuis un an, en fait. Je fais de la prévention cardiaque et ces histoires de scanner cardiaque que je suis partie pour apprendre et tout, c'est dans cette arrière-pensée de prévention cardiaque en fait jusqu'au bout, c'est-à-dire pour que ça soit comme c'est fait ailleurs, on est dans le dépistage, on regarde pas, on n'attend pas qu'on soit cardiaque en fait, c'est ça. Et je pense qu'il commence un tout petit peu et je sais pas comment ça se passe. J'ai pas eu à parler avec d'autres collègues pour voir est-ce que il y a cette culture qui s'installe pour venir consulter.
Alors,
à partir de 40 ans.
Faire un petit check, voir où en est la situation.
Parce que le message, c'est de transmettre aux gens qui sont apparemment en bonne santé. Et il faut pas croire que c'est pas un problème mondial, puisque la Société européenne de cardiologie a fait des recommandations qu'en 2021 pour faire ce dépistage des sujets qui sont apparemment en bonne santé, parce que c'est très compliqué d'aller dire à quelqu'un qui ne ressent rien d'aller voir un médecin.
Oui.
Pour voir il en est où de son état de santé. Et surtout avec l'arrière-pensée, en fait, pour nous, c'est quoi notre problématique? C'est qu'il ne fasse pas une crise cardiaque.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'au bout du dépistage, je peux lui dire graduellement qu'en fonction de son bilan, par exemple lipidique et tout, que malgré qu'il ne ressent rien, mais qu'il est à haut risque. Qu'il est obligé, par exemple, de prendre un traitement contre le cholestérol, avec toute cette polémique qu'il y a autour du traitement du cholestérol. Donc, ça pourrait être très compliqué. Mais ça serait bien que les Algériens commencent à apprendre qu'à 40 ans, il faut faire un point vis-à-vis de sa santé cardiaque, de sa santé mentale qui est liée à sa santé cardiaque, et de faire le point dessus, faire un ECG ou tout ce qui s'ensuit.
Surtout quand on a un parent.
Surtout quand on a un parent. Parce qu'on n'hérite pas qu'une couleur de yeux. On hérite toute
même
une...
Même des bobos.
Oui.
Tout à fait.
Oui, on hérite une génétique. Et pour savoir, est-ce qu'effectivement, on est touché par cette génétique ou pas. Par contre, ça revient en consultation. Les gens sont inquiets de savoir est-ce qu'ils ont hérité de cette génétique de maladie cardiaque. Et en fait, il faut qu'ils comprennent parce qu'on a on mélange entre les notions. Les problèmes coronariens, c'est-à-dire les problèmes des vaisseaux du cœur, on les hérite. Ceux qui ont eu des parents qui avaient des valves qui étaient malades, bon, à part une exception, par exemple la bicuspidie aortique, qui est héréditaire, qui peut être très souvent héréditaire. Sinon, ceux qui ont eu, par exemple, des parents qui ont un remplacement valvulaire, ceux qui ont eu un pacemaker, et tout ça, ce n'est pas héréditaire.
D'accord.
Nous, on est inquiets sur l'hérédité des vaisseaux du cœur. C'est ça. C'est ça ce qui est héréditaire. Donc, ça serait bien qu'il fasse une consulte et un bilan.
Et à partir de quel âge ?
40, 40. Avant, 40, non. Il faudrait le faire. Avant, oui, si on a une
grosse...
Il
faut rester à l'écoute de son corps.
Si on a une grosse hérédité de cholestérol, de diabète et tout, oui, il faut s'inquiéter avant, on va dire à 30 ans ou peut-être même avant, mais ça reste des cas très particuliers.
C'est des cas isolés.
Comme tu dis, ça serait bien que le médecin de famille ait le contact pour qu'il sache les orienter et tout. Mais à 40 ans, on devrait faire un bilan pour savoir il est où notre état de santé globalement, pour savoir est-ce que je suis dans la vague du prédiabète qui fait fureur et qu'il faut...
C'est la maladie du siècle.
Ouais.
Ouais. C'est devenu comme la grippe.
Exactement. Vous faites un bilan, vous avez une hémoglobine glycée qui est à 5,8 pour une norme qui est à 6%. Il y a ceux qui ont peur, moi je leur dis, vous êtes prédiabétique. Mm-hmm. Il faut leur dire, vous êtes prédiabétique. C'est pas un petit diabète, c'est pas... Non.
Il n'y a pas de petit.
Mais ouais. Il faut nommer les choses pour qu'ils prennent des décisions. Pour qu'ils prennent...
Il y a des gens qui n'acceptent pas justement cette maladie.
Le diabète.
Le diabète.
Ouais, on
diabète
est dans le déni.
Ou, voilà, donc on est dans le déni.
Ou l'hypertension, et ou les maladies orphelines.
Absolument, absolument. Et donc, c'est ça qui aggrave la chose. Mm-hmm. C'est-à-dire, le fait déjà d'accepter sa maladie, déjà, c'est la moitié du traitement.
Oui, bien sûr.
Le fait qu'on sache que, bon, j'ai un diabète, bon, maintenant, ça se traite, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais bon, le fait de ne pas accepter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne prends pas mon traitement, je mange ce que je veux, c'est-à-dire, bon, je suis pas malade, j'ai pas de diabète, et puis voilà. Et le diabète, malheureusement, c'est une maladie qui est insidieuse, c'est-à-dire que dans le temps...
Elle est silencieuse.
Et justement...
Et c'est pas le diabète qui tue, c'est...
C'est les complications.
C'est les complications.
Parce que si on avait juste une hyperglycémie,
on va essayer de la gérer.
Avec 3 grammes, 4 grammes, c'est pas grave. Bon, mais... Il faut voir les conséquences.
Tout à fait.
Sur le corps, sur le cœur, sur le...
Et justement, il y a une relation extraordinaire entre le diabète et le cœur.
Oui.
Dr Smiley, c'est...
Bien sûr, c'est comme... C'est un corrosif, si vous voulez.
C'est ça.
C'est un corrosif parce qu'il provoque un état inflammatoire. Un état inflammatoire, donc, de toutes les artères qui sont à l'intérieur du corps. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il est silencieux. Ouais. Donc, ce rapport de dépister la maladie avant qu'elle n'apparaisse quand les gens sont diabétiques, c'est un gros paquet pour le cardiologue. Mm-hmm. Oui.
Donc, il faut rester à l'écoute de son corps. Qu'est-ce qu'il faut surveiller en premier ? Le premier signe qui, enfin, je sais pas, il y a des petites choses
pour
détecter...
Pour dire qu'on a un problème cardiaque,
oui.
C'est la douleur, bien sûr. Pour les problèmes cardiaques, c'est la douleur. Mais bien sûr, il y a des degrés de douleur. Il y a des degrés qui sont typiques. Donc, une douleur, quand quelqu'un, vous le voyez faire ce geste, ou alors il a un étau, des brûlures, ça s'étend.
Il a du mal à avaler.
Il a mal, on dirait qu'il est enchaîné, des coups de poignard dans le dos. Ça veut dire, c'est le des signes d'infarctus, surtout à l'effort, c'est-à-dire plutôt au repos, là. Au repos. Mais il y a aussi toute la symptomatologie qui commence avant, si on a la chance, si ça commence pas par un infarctus inaugural, en fait, tous les symptômes de douleur thoracique à l'effort, ou de dyspnée à l'effort, bien sûr. Tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent dire qu'il y a un problème cardiaque quelque part. Si on est étouffé, on a des difficultés à respirer, on n'arrive pas à monter les escaliers, tout ça, il faut aller creuser un peu pour savoir.
Donc, il faut vraiment rester à l'écoute, mais parfois, on n'a pas de signes, docteur Van Aleg.
C'est vrai, il y a des... Je parle sous le contrôle de notre ami. Parfois, il y a des signes atypiques. Atypique où la personne n'a pas du tout de douleur, où elle ressent juste une sensation de gêne.
Une gêne. On a l'impression
d'avoir
quelque chose qui nous gêne, on n'arrive pas à avaler.
Voilà. Ou parfois, donc, ça se déclare par un problème digestif. C'est des douleurs, c'est des maux de... On a des épigastralgies, comme on dit, c'est-à-dire c'est des douleurs de l'estomac. Automatiquement, c'est vrai que c'est là où se pose le problème du diagnostic différentiel. Est-ce que c'est une épigastralgie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème d'estomac ou est-ce que réellement c'est le cœur? Et là, justement, la rapidité et l'efficacité de la, c'est de voir tout de suite d'abord son médecin. Mm-hmm. Pas nécessairement le cardiologue. Mm-hmm. On va voir d'abord, en général, les gens vont d'abord chez leur médecin, on se dit, voilà, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à ceci. Ce médecin-là, normalement avec une bonne formation, si vous voulez, on va parler tout à l'heure des formations mm-hmm. continues, là, doit faire le distinguo entre le problème digestif et problème cardiaque.
Une grosse errance diagnostique, mmh. voilà. Les problèmes digestifs
absolument.
Et les problèmes cardiaques.
Absolument.
C'est de très donc, grosses errances diagnostiques, en fait, quand quelqu'un a beaucoup de facteurs de risque ou c'est quelqu'un de vieux et qui fait des troubles digestifs, en principe, ça devrait être systématique de faire un ECG.
D'abord, absolument.
Surtout quand ils sont, en fait, c'est des internes ou alors des résidents au
c'est
départ
ça.
Quand ils sont c'est seuls ça. Dans un pays d'urgence. Et tout.
Est-ce que le CG est
pour un problème urgent?
Mm-hmm.
Oui.
Oui, d'accord.
Oui. Pour un problème
on peut détecter
urgent,
quelques
oui.
anomalies. Mm-hmm.
Pour ce que vous parlez, détecter une pathologie mm-hmm. Qui est comme ça, qui s'installe de façon insidieuse, pas très suffisant. Mm-hmm. Mais pour quelque chose d'aigu,
faut aller vers les Doppler, vers
oui. Faut aller vers plus d'exploration,
bah oui,
plus que de l'écho Doppler, plus que ça.
Il faut plus. Mais justement dans notre disons en médecine du travail, mm-hmm. on fait plus de la médecine préventive que curative. Et là, quand on donne des bilans, on donne systématiquement des bilans dans les visites périodiques, et notamment justement pour les chauffeurs, par exemple, on leur donne un ECG à faire. En plus de l'acuité visuelle, etc. Mm-hmm. Et très souvent, c'est des malades qui s'ignorent. On retrouve des fois des... Bon, je ne veux pas entrer dans les termes techniques, mais certains tracés, y a une anomalie. Anomalie du segment ST, le T inversé, etc. qui témoigne d'une maladie quand même assez grave, d'un infarctus qu'il a fait ou qu'il est en train de faire. Oui. Donc là, et cette personne-là s'ignore parce que justement, dû à ces signes atypiques, il ne sait pas qu'il était surtout chez le diabétique. Hein. L'infarctus du myocarde passe presque inaperçu. Le malade ne le sent pas. Mais bon, après un coroscan, là, on voit le degré de l'atteinte. Bon, c'est pour ça que je vous dis. D'un côté, on retrouve des maladies, des dyslipidémies, surtout chez les jeunes. Le cholestérol qui est
en augmentation
exponentielle, les
triglycérides.
Parce que mm-hmm. bon, il y a la malbouffe, comme vous dites, parce que le gars, il est à midi, il sort, il va manger le fast-food du mm-hmm. coin, et puis
il
revient.
Et on devient sédentaire. Mm-hmm. Bonjour voilà. plus. Surtout non. pour les jeunes. Non, ils sont plus en communauté.
Ah
c'est
bon,
très
oui.
sympa, un petit peu d'obligé.
Ils jouent en ligne.
Ouais, oui.
C'est ça.
Oui. Et c'est très, très dangereux pour le cœur aussi.
Oui, c'est très,
tout
très
à
mauvais.
Fait. Tout à fait.
C'est très, très mauvais, cette sédentarité. Même mes enfants, hein, mm-hmm. ils sont là à jouer, même avec des gens de l'autre bout de la planète. Mm-hmm. Donc,
mais tout pour rester à la maison, assis, sans bouger.
Oui, on leur a créé une nouvelle atmosphère.
Oui.
Une nouvelle atmosphère, une nouvelle façon de voir les choses, et c'est compliqué de les décarcasser pour les faire sortir. Et puis
sédentaire à partir de 15 ans.
Oui, et
c'est
puis
c'est pas évident. Hein?
C'est pas évident. Ils sortent plus dans la rue, peut-être pour jouer naturellement, mm-hmm. ou alors peut-être que on n'est pas dans, peut-être que nous aussi, peut-être que quelqu'un humette ou une mazel il l'a beau, mais en fait, nous, on est comme ça dans une microbiote particulière.
Et bien, justement, docteur Smaïli, quand on détecte une anomalie, que faut-il faire? Donc, commencer un petit peu un traitement, une nouvelle hygiène de vie, rester vraiment vigilant. Ça y est.
Ça dépend
quel
type.
On vient chez...
Ça dépend quel type de pathologie. Mm-hmm. Si vous parlez des pathologies coronariennes, bien sûr qu'il faut commencer un traitement. Maintenant, si vous me parlez de l'hypertension et du prédiabète mmh. et tout, oui, de toute façon, l'hygiène de vie, je pense que c'est
même quand on est sain.
Même quand on est, ouais. Mmh.
Quand on n'a rien.
Quand on n'a rien, on commence par une hygiène de vie. Mais l'hygiène de vie est très importante, surtout qu'on sait que, par exemple, un régime méditerranéen, c'est 30% de survie. ce qui est...
On gagne 30%, les amis. C'est important.
On gagne 30%. Et ça, aucune firme pharmaceutique ne va vous le dire. Parce que ça fait autant qu'un médicament. Mmh. Et puis, c'est durable. Et puis, c'est riche en polyphénol. Et tout ce qui est bon pour le système cardiovasculaire. C'est-à-dire, vous gagnez en longévité. Ça prend du temps, mais vous gagnez en longévité.
Même à 75 ans, ça peut changer une vie.
Oui. Ça va pas. Après, ça, c'est effectivement, ça, c'est une vision du monde. Mm-hmm. Bien sûr, on loupe rien jusqu'à la fin. Après, effectivement, c'est très dur parfois de parler avec des gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit, qui sont dans Akhret Hamout. C'est très, très compliqué. Mais effectivement, l'hygiène de vie est très importante. Le cholestérol est un ennemi du cœur. Donc, il faut avoir
Même quand on est super mince, on peut avoir du cholestérol.
On peut être grosse et ne pas avoir de cholestérol.
Exactement.
Parce que le cholestérol, c'est génétique. Mm-hmm. Le cholestérol, ça se forme de façon endogène. Donc, ça dépend de votre assimilation digestive, de votre épuration au niveau du foie. Donc, quelle est votre génétique? On revient à ça encore une fois. Comment vous absorbez, comment vous éliminez du cholestérol. Donc, il y a des gens qui font des régimes drastiques et ils n'arrivent pas à avoir un bon taux de cholestérol. Mmh. Il faut qu'ils comprennent que c'est leur foie qui est responsable de la production de 75% du cholestérol et 25% est alimentaire. Voilà.
D'accord.
25% n'est qu'alimentaire. Tout le reste, c'est leur foie qui est responsable de ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a 2 grammes de mauvais cholestérol, bon, on peut tester avec eux, faites un régime juste pour qu'ils fassent en fait le constat de l'échec de ces régimes. Parce que le meilleur des régimes, là où il n'y a pas de pâtisserie, en fait, il n'y a pas de friture, on enlève le beurre, pas de margarine, parce que même les margarines, il faut qu'ils fassent très attention.
À éliminer.
Des acides gras hydrogénés, il faut qu'ils apprennent à lire les paquets, même pour eux, pour leurs enfants, les paquets de biscuits, où il y a des fourrages au chocolat, et c'est mis acides gras hydrogénés. On est à l'époque, donc on a repris la rentrée scolaire, les petits biscuits fourrés qui coûtent, plus le prix est bas, plus ça veut dire qu'on a utilisé des méthodes de crackling pour faire, c'est de l'alimentation ultra transformée qui est néfaste au Canada. Il y a certains trucs qui ont été bannis. Ils ont une stratégie de prévention qui est excellente. D'ailleurs, ils n'ont pas de soleil, mais ils n'ont pas de carence en vitamine D.
L'inverse,
voilà.
Le soleil et pourtant voilà. Il y a des vitamines D.
Parce qu'ils ont fait une supplémentation en plus de l'alimentation qui est riche en poissons.
Ça, c'est très, très
donc
important.
C'est la stratégie du Canada. Alors que nous, il n'y a pas de... Donc, le soleil y est, mais on est très couvert. Sans vouloir toucher
les gens. Les sensibilités.
Exactement. On parle pas de voile ni rien du tout. Mais en tout cas, on est... Même les hommes, moi, au cabinet, même les hommes ont des carences en vitamine D. Donc, il y a ça. Et puis,
c'est important de s'exposer tous les matins.
C'est important de s'exposer au soleil. Et puis,
le poisson. 15 minutes de préférence. Les avant-bras.
Les avant-bras et les pieds, les jambes et tout. Parce que le visage, ça ne sert à rien. Il ne synthétise pas la vitamine D comme c'est parti.
On a juste des taches brunes. Si jamais on s'expose.
Exactement, c'est tout. Ça ne ramène rien de plus. Ou le hôte dommage. Le hôte dommage. Parce qu'il y avait la sardine qui était bonne. Pour ramener toutes ces oméga 3 et tout. Plein de mythes sur la santé cardiovasculaire, que les oméga 3 c'est bon en gélule. Alors là, c'est du complètement
c'est pas
faux.
Vrai.
C'est faux. Les oméga 3 c'est bon quand c'est pris en poisson. Et bon, il y a une.
Même sardine en boîte,
oui, oui, même c'est bon.
Bah, oui, c'est bon quand c'est en
juste
boîte.
Juste qu'il y a de l'industrie qui est là.
Et on a d'excellents fabricants.
Oui.
On a des marques bien de chez nous et c'est très, très bon.
Et c'est très très bon. Et donc c'est juste qu'il y a une industrie qui est autour du complément alimentaire. Le complément alimentaire, c'est bon quand on est carencé, quand on est en bonne santé et qu'on n'a pas fait de bilan. Ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires. Ça, c'est juste, c'est bon pour le pharmacien. Mais ça ne rapporte
pas. Ça enrichit.
Ça enrichit le pharmacien.
Celui qui le fabrique.
Voilà.
Et celui qui le vend.
Mais ce n'est pas du tout. C'est une illusion. Et par contre, prendre ce type d'aliment riche en polyphénol, qui est marmène, la grenade, enfin, il y a l'huile d'olive et tout, c'est excellent pour la santé cardiovasculaire. Les polyphénols.
Le cholestérol revient très souvent, c'est la cause justement de ces
hypertensions. Oui, le cholestérol, c'est les cholestérols. Donc, il faut prendre des viandes qui sont pauvre, maigre. Donc, prendre de la viande rouge, mais
pas tous les jours.
Pas tous les jours.
Une fois tous les 15 jours, c'est excellent.
Donc, et la viande blanche, alterner les viandes et tout. Les œufs, c'est excellent.
C'est très bon.
C'est excellent.
Si on arrive à manger des œufs tous les matins.
Oui, c'est et c'est un mythe autour des œufs et du cholestérol. C'est prendre deux œufs par jour.
Comment on doit les consommer?
Vous pouvez mettre un peu dans l'huile d'olive ou là vous les faites bouillir ou là c'est pas grave. Faire réduire son cholestérol, c'est pas ne pas manger d'huile du
c'est
tout.
Vrai, mais non.
C'est pas vrai. C'est avoir une huile de meilleure qualité. Parmi eux, l'huile d'olive, il y a d'autres huiles qui sont polyinsaturées parce qu'elle est monoinsaturée. Ce qui est bien, c'est que ça serait, si elle n'était pas si chère, c'est de cuisiner avec de l'huile d'olive parce qu'elle résiste à la chaleur et elle garde son goût, donc elle a la saveur. Mais en plus de ça, elle est excellente pour cuisiner avec.
Un petit filet, on n'est pas obligé de mettre des tonnes.
Après, prendre 20 grammes de beurre, c'est pas mauvais non plus pour le cœur. Oui, du
le
beurre,
vrai. Zibda.
Le vrai, c'est mieux que de la margarine hydrogénée.
Qu'on trouve chez l'ébène aussi, c'est et très bon.
C'est très bon, donc il y a ça, naturel. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mythe à démonter? Je suis venue pour démonter les mythes.
Bah oui, c'est ça, c'est le plus important.
Les fromages, alors... Très gras, type camembert, quand on a de l'hypertension, c'est juste pas possible. Il faut prendre un huitième. Par contre, le fromage...
C'est bien, un huitième
de chat. Oui. Alors, par contre, les fromages, ça serait bien que ça soit maigre, type du Bénin, comme on le prend.
Du Bénin.
Et c'est bon, pauvre en sel. Et ça se mange le matin. Parce que son assimilation est mieux le matin. On prend pas du fromage le soir, parce qu'il y a le métabolisme hépatique qui ne le digère pas. Et donc, ça fait faire grimper le cholestérol.
Il faut dire que le corps absorbe les protéines à 90% le matin, à 70% à midi et à 40% le soir.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une chronobiologie de l'alimentation. Et quand on n'applique pas cette chronobiologie, donc on ne sait pas à quel moment manger les aliments. C'est pour ça que ça fait un moment grimper. Par exemple, ne rien manger et après prendre quelque chose de sucré. Tout le sucre rentre dans le corps. Automatiquement, vous avez votre glycémie.
À quel moment on peut manger justement du sucre? Parce qu'on en a quand même besoin.
Bien sûr.
Moins de 20, 25 grammes
je
par jour.
Je pense qu'il faut être raisonnable. Le matin, à la limite. Non, le matin, au contraire. Moi, je pense, à mon avis. Et je pense
quand on a des travaux forcés, docteur.
Voilà, absolument.
Bah, oui.
Pas nécessairement des travaux forcés.
Bouge.
Un travail intellectuel demande beaucoup de
effectivement.
De donc, certainement que le matin, c'est plus recommandé plutôt que le soir. Alors là, pour la nuit, ça, c'est à éviter.
Après,
là,
on parle de quel sucre, c'est ça?
Voilà.
Si vous parlez de pâtisserie,
Mais heureusement qu'on parle de ça.
Pâtisserie, gâteau.
Le matin, c'est bon, de temps en temps.
Le fruit,
pommes, ça fait du bien.
Le fruit, il faut en manger, des fruits.
Ah, oui.
Des fruits, il faut en manger, varier et tout. Après, effectivement, quels sont vos objectifs?
Je parle de bébam qu'alot le matin.
Et là, il y a qui bzaf. Kul sbah bébam qu'alot.
Je fais
le système de la journée libre. Moi,
d'accord.
C'est ce que je fais.
Une journée.
Le libre cours. Ou alors une seconde astuce, si vous faites du sport, vous marchez et tout. Moi, au lieu de prendre Habiba Mkrot, Dishwiya.
C'est pas mal. Tu vois, je apprendre prends, à partager.
Voilà, je prends ouais. un peu parce que il y a une vie sédentaire qui est là. Mm-hmm. Ouais. C'est sûr que je mangerai plus à l'aise si le soir je sais que je vais faire 2 heures de sport.
Mais on est obligé de faire du sport, les amis.
Oui, oui, oui.
Oui, on est obligé. Important. On est obligé de marcher déjà, c'est
voilà,
déjà
pas,
beau.
Pas nécessairement.
C'est obligatoire et pour tout le monde, pour préserver voilà. son cœur.
Ouais, exactement. C'est obligatoire. Exactement. C'est obligatoire pour tout le monde de marcher. On n'est pas des voitures.
De 7 à 79 ans ou à oui. 99
oui, mais
ans. Alors,
là, justement, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par marcher. Mm-hmm. Parce que c'est la marche qu'on fait, ce n'est pas du shopping. Hein, pour, mm-hmm. Non, oui. Ça, c'est une marche qui est soutenue.
Il faut faire une marche rapide.
Dit une marche de facteur, mm-hmm. c'est-à-dire c'est le gars qui court pour remettre toutes les lettres et les trucs. Et il a tendance à faire des pas assez rapides et mm-hmm. soutenus.
Quand on peut faire une activité physique, ça c'est génial. C'est très bien, quand on peut mieux. Faire une activité voilà. sportive,
c'est encore
meilleur.
Mieux, bien sûr.
Donc
bien sûr.
Il faut bouger.
Absolument.
Et bien bouger.
Absolument.
Danser.
Mm-hmm. C'est pas mal.
Oui. Moi, comme je leur dis au cabinet aux femmes, elles me disent je peux pas. Tu peux
mettez
toujours...
un petit peu de musique à la maison et
oui, danser.
Danser,
c'est ouais. pas mauvais, danser. Oui. C'est excellent.
Ça c'est pas mal.
Et oui, et ça permet de rester sympathique.
Ouais. Quand ça crée l'ambiance à la maison.
Absolument.
Ça c'est bien.
Oui.
Ça c'est
oui.
bien. Ça c'est
je
cool.
Je trouve que danser, c'est excellent. On n'est pas tous les gens ne sont pas sensibles à l'activité physique mm-hmm. de la même façon. Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas. D'ailleurs, moi, la question que je pose, est-ce que vous aimez le sport ou pas? Parce qu'il faut poser la question. Il y a mm-hmm. des gens qui n'aiment pas faire du sport. N'aiment pas.
Pourquoi? Ils sont feignants, ils ont pris l'habitude.
Je pense qu'ils n'aiment pas. Il y a des gens qui sont...
Ça ne fait pas partie de leur environnement.
Ça ne fait pas partie de l'environnement. Il y a des gens qui ont peur du regard des autres.
Oui. Mm-hmm.
Il y a des gens qui ne veulent pas aller en salle parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'ils estiment qu'ils ont pris énormément de poids. Mm-hmm. Et pour eux, c'est une ambiance qui est très jugeante, très... Donc, ils ne veulent pas. Il y a ceux qui ne sont pas dans l'effort de la chose. Donc, c'est le minimum, c'est de marcher. Bon, s'ils peuvent danser, c'est tant mieux. Si, n'importe quelle activité, qu'ils fassent une activité, qu'ils ne soient pas sédentaires, parce qu'après, ils vont avoir une fonte musculaire. Mmh. Et surtout, nous, les femmes, avec l'âge de la préménopause et tout, on s'engraisse. Et chaque année, on perd 1% de notre musculature.
Il ne faut pas oublier, les amis, que le muscle, c'est un petit peu le capital santé pour plus tard.
Oui.
Il faut avoir au moins un tiers de muscle.
Oui. Et donc, plus on se muscle, surtout les femmes à partir de la préménopause, mieux on arrivera bien
à gérer certains bobos.
À gérer certains bobos et à prendre de l'âge en étant bien. Bon, en espérant être... quoi, Angelina Jolie, non? Non, non, pas. Non, l'autre, non. Comment s'appelle celle qui j'aime bien, moi?
Laquelle?
Beyoncé.
Elle gère son cœur.
Ah oui,
elle
et son corps. Oui.
Et son corps, oui. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Ils ont tendance à faire pour Jennifer
on a
Lopez,
le même, par on a le même âge. Hein. On a le même âge avec Beyoncé. On a le même âge.
Mais elle arrive à bouger tous les jours. 8 heures par jour, ça, c'est pas mal. On devrait faire la même chose. Cela dit, docteur Smiley,
oui.
Il y a aussi d'autres facteurs. Il y a le stress.
Oui.
Qui est très, très mauvais.
Très mauvais. Le stress... Il fait coaguler le sang. Il jemde dem.
Il dit qu'il jette le dem.
Voilà.
Ça, c'est l'expression des mamies.
Et c'est scientifique.
C'est la coagulation.
Donc là, ça augmente la coagulation. C'est le troisième facteur qui fait des crises cardiaques après le tabac. On n'a pas parlé du tout de tabac. Après le tabac et le cholestérol. Donc, c'est le troisième facteur. Et le stress, il y a différents stress. Hier, j'entendais quelqu'un dire qu'en fait, même les situations en fait, professionnelles, et il est très bien là-dedans, ça dépend de ton métier et tout, ça génère du stress et que ça donne des événements cardiaques.
Personnes anxiogènes.
Oui, les personnes qui ont un caractère anxieux, quand on a un caractère qui est anxieux, mais en plus de ça, il est amplifié par l'environnement. Là où vous travaillez, avec qui vous travaillez, comment vous interprétez les choses.
Il faut
mettre
des stop-bruits, docteur Ben Aleg ?
Non, pas nécessairement, c'est-à-dire que, bon, il faut savoir être zen d'abord.
Faut faire du yoga tous les matins.
Bon, je dirais pas jusque avant le petit-déj. Je dirais pas jusque là. Bon, mais disons que avoir une certaine comment dire, une certaine confiance en soi, mm-hmm. une certaine bon, ne pas paniquer ou ne pas monter sur ses grands chevaux pour quelque chose de banal, quoi. Mm-hmm. Donc ça dépend du caractère de la personne, du malade. Et de deux, en faisant quand même du sport, justement, on arrive à
éliminer,
mm-hmm. dégager cette pression qu'on a. Cette, et alors, on canalise justement mm-hmm. ça dans le sport, dans le n'importe quel sport, hein, ne serait-ce que de la marche. Le fait de marcher. Mm-hmm. Moi, je connaissais un ami qui, alors comment il prenait sa voiture. Quand il était comme ça en période de stress, mm-hmm. il prenait la voiture, il allait l'autoroute. Allez, j'ouvre les fenêtres et je crie.
C'est bien aussi de crier.
Ça me soulage. Mm-hmm. Je rentre au boulot, à la maison. Bon, ça va. J'ai dégagé cette pression.
Il est toujours dans du contrôle. Moi,
oui,
j'aime
oui.
pas trop cette vision du. Vous donnez l'image de l'homme hyper contrôlant parce qu'il part dans l'autoroute pour gueuler parce que il est incapable de mettre des mots sur sa douleur, sa mm-hmm. peine, affronter avec des mots dans la sérénité l'autre en lui disant calmement en fait qu'il est quelque part la source de sa souffrance. Mm-hmm.
Apprendre à gérer,
justement.
Apprendre
à communiquer, ouais. essayer d'apaiser.
Non, mais d'ailleurs, je parle de certains cas de travail, par exemple, où il y a une pression. Ouais. Bon, il y a des périodes où pour tel travail, il y a une pression quand même je parle par exemple des comptables, hein, au niveau chaque.
Là, ouais.
Ils ont cette.
Même moi, ils arrivent chez moi.
Cette pression, voilà. Et donc, justement, qui est à l'origine de les sources de
maladies. Oui, les métiers de finance génèrent beaucoup de problèmes cardiaques. Ouais.
J'ai eu malheureusement, en pleine réunion, des malaises. Bien on sûr. M'appelle pour voilà le directeur Flynn, il a un malaise.
Bien sûr. Alors,
imaginez.
Quand notre corps est. Oui. Si on devait revenir un petit peu à ce cœur sain, est-ce qu'on peut faire un infarctus
sur un
dû au stress?
Oui.
Absolument.
Bien sûr.
Absolument.
Vous parlez, je sais que vous vouliez parler du Takotsubo. Mm-hmm. Vous voulez parler d'un état de stress très important qui est très souvent, ce sont des femmes et des femmes en préménopause et ménopause mm-hmm. qui font ça à cause de grosses décharges d'adrénaline et qui font des infarctus en fait. Mais heureusement que ça revient, heureusement que ça revient à l'état normal après. D'ailleurs, on fait la différence avec un infarctus sur cet événement, mm-hmm. sur cet élément. En fait, les autres, ça régresse et un infarctus, ça ne régresse, bien sûr.
Et les bobos liés au cœur, les amis?
Les histoires, de mots d'amour
ben
et de
oui.
évidemment, mm-hmm. évidemment, bien sûr, on parle de toute cette gestion. Mm-hmm. C'est pour ça que je vous dis, on met pas de mots sur ces mots.
Il y a une maladie, là, le cœur brisé.
C'est ça, le Takotsubo.
C'est ça. Donc ça peut aussi. Bon, mais il y a le côté organique aussi, hein. Mm-hmm. Bon, il y a le côté sentimental qui est le déclencheur. Ensuite, bon, il y a cet infarctus, cette maladie, ce malaise qui survient juste après. Mais bon, ça arrive.
Il faut aller consulter dans ce cas-là.
Bien sûr.
Oui,
bien
on
sûr.
Est la situation.
Bien sûr.
C'est,
on arrive
c'est une maladie.
Pour
c'est
des
une maladie,
comme
hein.
ça, bien sûr.
Les amis, il faut faire très, très attention.
Une maladie, tout à fait.
Il y a un traitement aussi.
Bien sûr, il y a un traitement. Ouais. Heureusement que c'est exceptionnel. Ça touche plus les femmes parce que le corps des femmes est plus fragile que celui des hommes. Bon, bien sûr, heureusement.
C'est vrai.
Oui. On a plus de récepteurs. Moi, ça se comprend. Récepteur au stress. Donc, ça se comprend qu'on soit si différent dans l'âme et dans le cœur.
Donc, quand on a un chagrin d'amour, il faut aller consulter les amis. C'est très, très important
absolument,
pour voir où
absolument.
En est la situation concernant le cœur. C'est vital.
Concernant, oui, c'est son cœur, et puis on peut aller voir un psychologue pour voir elle est où la faille.
Pourquoi ?
Elle est où la faille ? Pourquoi on a usé de son cœur ?
Exactement. Aujourd'hui, on a peur de prendre les médicaments.
Oui.
C'est très, très difficile. Ouais. Avec justement toutes ces personnes qui essayent un petit peu d'en parler sur les réseaux sociaux, histoire de dire faites attention, Kayn Lachev, Kayn Douaro et tout.
Oui, oui, non, ça c'est. Ça,
non, Ismaël, ouais, je sais que c'est.
C'est
un sujet.
Elle a reçu les réseaux, elle est John Lachev. J'arrivais plus à traiter l'hypertension. C'était pas possible. T'es un trend.
La moringa aujourd'hui qui est très à la mode. Et l'ourtazitone.
À un moment donné, vous êtes obligé de rentrer dans leur délire. D'accord, prenez votre tisane et prenez votre traitement.
Exactement.
Et ils sont convaincus. C'est-à-dire, elle prend, par exemple, on va citer l'amelor à 5 mg. Elle te dit, oula, rtla, tlipsa, kishrb, tourq, zitone.
Non, parce qu'il y a cette idée reçue. On se dit, bon, la ken m'infernish, mais dorniche.
Et qu'est-ce qui est naturel et bon pas. Et
les médicaments sont à base de plantes.
Voilà. Et ça, c'est une idée reçue.
Et il y a pire encore maintenant. Alors, ils achètent des choses sur le net dont ils ne connaissent pas.
Ils les proposent même aux enfants.
Oui. Ils ne connaissent pas la composition ou Jaouni des malades avec des changements de bilan hépatique et tout. On ne sait pas. La notice n'est pas sain. Et elle me fait sortir la malade un pot qu'elle prend pour son arthrose. Où est la composition dedans, Mekesh?
Ça, c'est terrible.
C'est terrible.
Apprendre à lire les notices.
Et on leur dit, par exemple, c'est un traitement qui est bon pour le diabète. On leur met du glucophage dedans, à l'intérieur de l'khltan. On leur dit
ça, c'est très
dangereux. Et on leur dit que ce sont des traitements qui sont bons, par exemple, pour régler les troubles sexuels chez les hommes qui ont des problèmes cardiaques et de l'hypertension. Et on leur met du Viagra à l'intérieur.
Ça devient dangereux aussi pour le cœur.
Oui.
C'est très grave.
Donc, il faut être conscient. On n'achète pas des choses Agda miraculeuses, surtout pour la perte de poids et tout. Ils sont à la recherche du moindre effort.
Et pourtant, le premier organe qui va être touché, c'est le cœur.
C'est le cœur, le rein aussi. Ils peuvent faire des insuffisances rénales.
Général,
alors,
c'est
d'un côté, nobles, par contre, quand ils prennent la tisane, ils n'ont pas peur pour leur rein. Mais qui chrebo doit rsrler clawiya. Alors, toute l'année, on a
c'est des idées reçues,
que les médicaments de l'hypertension, ils sont là pour protéger le rein et non pas pour bousiller le rein.
Il nous reste 2 minutes. Que faire justement pour vivre en harmonie avec notre cœur?
Pour vivre en harmonie avec son cœur.
Ben oui.
Je pense qu'il faut vivre tout simplement naturellement.
Ouais.
Ne pas se faire de stress quand vraiment ce n'est pas nécessaire. Gérer son stress quand il y a quand même un stress qui est là, qui est évident. Et puis mener une vie saine, faire du sport, manger bien. Manger naturellement.
Manger à l'ancienne.
Manger.
C'est bien. C'est bien de revenir un petit peu à nos recettes.
Ces légumes qui sont frais, qui sont méditerranéens.
Respecter la saison.
Et donc,
je pense qu'on est
chanceux par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres. Voilà. C'est tout simplement.
Moi, je leur dirais aimez-vous, votre cardiologue s'en charge du reste.
Voilà.
Ça, c'est pas mal.
Voilà.
Ouais. Mais dès qu'il y a quoi que ce soit, il faut aller consulter.
Il faut s'aimer.
Apprenez à consulter.
Absolument.
Et puis voilà, parce que quand on s'aime, on est dans une démarche de se maintenir en vie.
Tout à fait.
Que cette mentalité de « Akhir ta'amout fi
tastermi » Non, pas du tout.
Oui, on va tous disparaître, mais...
C'est bien de profiter de cette vie en bonne santé.
C'est un joli cadeau. C'est un joli cadeau.
Tout à fait, la vie.
C'est un joli cadeau et je pense que ça mérite d'être vécu.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Smaïli. Oui, je rappelle que vous êtes cardiologue. Merci, docteur Jabal Ben Alleg. Un plaisir de vous avoir avec nous, les amis. On vous donne rendez-vous demain, ou l'Ahyan Albi, même en même station, à partir de 10h sur Alger Chien 3 dans Service Public. Au revoir.